Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite sur RTL, on pratique l'hypnose. Bonjour Thomas Cavaillé-Folle.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver.
Vous êtes journaliste au magazine Science et Vie et vous publiez donc un dossier sur l'hypnose et la méditation. C'est en partenariat avec RTL. Bon, vous nous connaissez, on aime commencer par la base. Une définition, c'est quoi l'hypnose?
Alors c'est déjà, c'est un état de conscience modifié, c'est-à-dire que c'est un état réel, ça se voit sur le cerveau, mais modifié. On a une attention hautement focalisée sur quelque chose en particulier et avec ça, on se coupe un peu du monde extérieur.
C'est
une
sorte
de bulle intérieure. Mais non, c'est complètement différent de l'état de sommeil, effectivement.
Depuis quand on l'a répertorié? Qui l'a identifié, si j'ose dire, pour la première fois?
Alors, vous avez raison de dire ce mot-là, parce que je pense que ça fait très longtemps que l'hypnose, en tout cas, est pratiquée, ou en tout cas qu'il y a des pratiques. Mais dans le monde médical, c'est apparu vraiment au XVIIIe siècle, avec un docteur viennois, un médecin viennois qui s'appelle Mesmer, d'ailleurs.
Celui qui fait des spectacles aujourd'hui, voilà, fait référence, pour avoir vu le spectacle de Mesmer, il fait référence au fondateur de l'hypnose et au docteur.
Exactement,
Mesmer.
Et lui, il cherchait à soigner en provoquant des crises chez ses patients, en fait. Et c'est donc à partir de là que l'hypnose médicale, en tout cas, a été un peu exploitée.
L'hypnose transforme l'activité de notre cerveau et ses perceptions. On l'utilise de plus en plus pour soigner. Pour quelle maladie est-ce vraiment efficace? Réponse dans un instant sur RTL.
RTL.
RTL, c'est
des découvertes,
mais aussi des standards
et des nouveautés. On aime la musique sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
L'hypnose a longtemps alimenté tous les fantasmes. Certains prêtaient aux hypnotiseurs de fabuleux pouvoirs de manipulation.
RTL.
D'autres n'y voyaient qu'une grotesque supercherie.
Et confiance, crois en moi.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Mais depuis peu, la science s'intéresse de près à l'hypnose.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Le serpent K, le roi de l'hypnose dans le livre de la jungle, avec la voix de Roger Carrel, évidemment, dans la version française. Vous nous connaissez sur RTL tous les jours de 14h à 15h. On est curieux et on a la curiosité, vous avez eu peur Sidonie, et on a la curiosité de découvrir les dernières avancées scientifiques en matière d'hypnose. Notre invité, c'est donc Thomas Cavaillé-Folle, qui est journaliste au magazine Science et Vie, publié une série d'articles sur l'hypnose et la méditation. C'est en partenariat avec RTL. L'hypnose, de plus en plus souvent utilisée en médecine. Je dis ça veut dire quoi? Dans quel type d'opération? Vous pouvez nous faire une petite liste pour commencer?
Quand on a commencé à se rendre compte du potentiel de l'hypnose, en gros, on parle du potentiel de l'esprit sur le corps. Donc les applications sont incroyables, il y en a plein, on cherche de tous les côtés, les chercheurs vont dans tous les sens. En médecine, quand on parle de médecine traditionnelle, pour l'instant, ce qui est fait, c'est surtout pour l'anesthésie, en fait. C'est un complément de l'anesthésie.
Ah, ça ne remplace pas l'anesthésie générale ou locale?
Ça ne la remplace pas, mais en gros, ce qu'on peut faire, c'est, grâce à l'hypnose, c'est diminuer les doses, par contre, d'anesthésiant.
Mais il ressent quoi, le patient, Thomas Cavaillé-Folle? Vous nous avez décrit l'hypnose tout à l'heure, mais il est quoi? Endormi? Il est conscient qu'il est en train de se faire opérer? Il entend les bruits?
Alors, ça dépend aussi de la manière dont le plonge l'hypnothérapeute à ce moment-là.
Oui,
mais généralement, il est conscient de ce qui se passe autour de lui. Il peut communiquer s'il a une gêne. Il a de la nociception, c'est-à-dire qu'il sent les choses, mais il n'a pas forcément les émotions négatives. Ce qu'on appelle douleur, en fait, n'est qu'une émotion négative associée au toucher, à la nociception.
Nociception, je ne connaissais pas ce mot.
Oui, c'est le réflexe primaire, en fait, de douleur. Ce qu'on appelle la douleur, c'est l'émotion négative associée à ce réflexe-là.
D'accord,
quand vous mettez la main sur un feu, par exemple, vous la retirez très vite, sans avoir mal encore, c'est de la nociception.
Ok, bien compris, merci.
Mais alors, est-ce que le patient qui est opéré en partie sous hypnose peut se déconnecter, se réveiller de cette hypnose? Parce que c'est ça qui me ferait peur, moi.
En plein milieu de l'opération.
S'il est maintenu dans son état par l'hypnothérapeute, il n'y a normalement aucun problème. Donc l'hypnothérapeute, il va vous mettre dans un...
Et s'il va aux toilettes, l'hypnothérapeute, et que... Non mais je veux dire, qu'il lâche le fil, c'est une question sérieuse.
Là, c'est très possible, bien sûr.
Oui, c'est vrai.
Bien sûr, mais dans ce cas-là... ça n'arrive pas.
C'est pas compliqué. Il reste là, il continue. C'est parfois utilisé pour la chirurgie du cerveau. En quoi ça peut être utile?
Alors, ça a été pour la première fois utilisé en fait en 2016 là, pour la chirurgie du cerveau. Mmh. Et ce qui peut être utile là-dedans, c'est que il y a certaines chirurgies de cerveau qui doivent se faire en fait en anesthésie locale pour pouvoir
C'est-à-dire que le patient particulièrement guide un peu le chirurgien, c'est ça.
Soit on le fait parler parce que effectivement on est à côté du centre du langage, donc du coup on sait que on commence à toucher quand l'addiction se fait moins fluide, ouais, ce genre de choses. Donc ça permet de donner des indications en fait aux praticiens.
Thomas Cavaillé-Foll, dans le magazine Science et Vie, vous avez évalué, et c'est ça qui est vraiment intéressant, l'efficacité de l'hypnose, par exemple chez le dentiste.
Ouais.
Dans quel cas on l'utilise et quels sont les résultats?
Alors là, c'est pour vraiment pour la douleur opératoire. Donc c'est dans les cas d'opérations.
Des dents de sagesse, par exemple.
Donc en fait, ils se sont rendus compte que là, l'hypnose avait un réel effet sur la dose d'antalgie qu'on donnait aux patients et sur la douleur post-opératoire. Par exemple, chez quelqu'un d'hypnotisé, on lui donnait un quart en moins d'antalgique ou d'anesthésiant. Ce qui a une répercussion, bien sûr, sur les effets indésirables aussi de l'anesthésiant. Vous savez, c'est toujours désagréable de se réveiller.
Oui, puis ça, on a la joue engourdie toute la journée, puis on est fatigué longtemps.
C'est ça. Ouais. Et la douleur post-opératoire aussi était ressentie comme presque la moitié.
Est-ce que c'est utilisé pour les accouchements?
Ce n'est pas à ma connaissance.
Parce qu'on se prend des bonnes doses d'anesthésiant aussi, avec la péridurale.
Mais je pense que pour l'accouchement, il faut être aussi un peu... là, pour pousser, oui, pour pouvoir faire
donc ça s'appliquerait
tout ce
travail-là.
Ça ne s'appliquerait pas forcément. C'est une bonne question à poser à Jean-Marc Benayem, qui nous rejoindra tout à l'heure.
Ah ben oui, c'est un médecin, un praticien spécialiste de l'hypnose. On pourra lui reposer cette question sur l'accouchement. Arrêter de fumer, ça, en revanche, les addictions, l'hypnose est souvent pratiquée. Vous avez testé, en quelque sorte,
Toutes les études, ouais, effectivement. Et c'est vrai que quand on parle d'arrêter de fumer et de l'hypnose, c'est un peu, on dirait, le remède miracle. Tout le monde connaît quelqu'un qui a arrêté de fumer grâce à l'hypnose. Mmh. Et en fait, ce qu'a prouvé un rapport de 2015 de l'INSERM, c'est que c'est pas plus efficace qu'une autre thérapie. Pour l'instant. Mais donc ça veut dire que c'est efficace. Hein.
Et contre la dépression, est-ce que l'hypnose est utile, fait du bien, peut soulager?
Contre la dépression, l'hypnose semble avoir un réel effet, effectivement. Là, il y a une étude mexicaine qui a montré que ça diminue un peu l'état dépressif, notamment sur certains symptômes précis de l'hypnose. Par exemple, la rumination. Qui est
c'est quoi,
les obsessions, non, c'est ça?
C'est ça, c'est cette boucle de pensées desquelles on n'arrive pas à sortir, en fait, et des pensées négatives, bien sûr, qui font qu'en fait c'est aussi un symptôme, mais c'est quelque chose qui maintient aussi cette dépression, mine de rien. C'est un cercle vicieux.
Et l'hypnose rompt cette rumination.
Voilà, elle arrive à sortir de ce schéma-là.
Et dans votre magazine, je vois aussi, parce que Sidonie me posait des questions là-dessus tout à l'heure, que ça a une vraie efficacité contre les troubles érectiles. Voilà.
Est-ce que je m'inquiétais pour vous, Thomas?
Oui, je m'en doute bien. Dans le cas des troubles érectiles, sans cause organique, l'hypnothérapie semble avoir une réelle efficacité par rapport au traitement chimique ou alternatif.
C'est une bonne nouvelle.
Voilà. C'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Est-ce que c'est facile d'évaluer les résultats en matière d'hypnose?
Non, là, vous touchez quelque chose de très, très important. C'est vrai que c'est difficile. Vous savez, dans des... normalement, quand on teste une substance, un médicament, on fait ce qu'on appelle des tests en double aveugle. On fait deux groupes, et puis il y en a un qui aura... un groupe recevra le placebo, un groupe recevra le médicament, mais personne ne sait en fait quel groupe reçoit quoi. Ni les médecins, ni les patients. Là, faire du placebo sur l'hypnose, c'est-à-dire faire un groupe placebo, c'est impossible.
Ben oui, par définition.
Enfin, donc, vous l'avez vu avec les troubles érectiles, on les compare soit à...
vous, Thomas, vous le journaliste.
Oui, bien sûr, mais moi je teste tous les thèmes.
Non, mais comme vous l'avez lu,
j'ai mangé beaucoup de frites pendant le week-end.
On le compare du coup à une écoute empathique ou alors au traitement traditionnel.
Bon, comment fait un praticien, un médecin pour hypnotiser un patient à une opération? Ben, on va poser la question justement, docteur Benayem, dans une minute sur RTL. On va même faire un test avec lui, vous verrez.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Comment marche l'hypnose? On répond à cette question grâce à notre invité, le journaliste Thomas Cavaillé-Foll, et au docteur Jean-Marc Benayem. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour, bienvenue.
Merci.
Vous êtes praticien hospitalier à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous formez aussi aux techniques d'hypnose. Quelle était votre dernière intervention avant une opération?
Alors, il y a plusieurs circonstances, mais les plus récentes et plus récentes, c'est une jeune femme qui voulait travailler avant son accouchement pour ne pas avoir peur. Et on voit régulièrement, je pense aussi à une patiente qui est en chimiothérapie et qui avait très peur des soins qu'elle allait faire, d'autant que le diagnostic n'était pas très simple à accepter. Et donc l'objectif, c'est ça, c'est que la personne puisse aller vers un scalpel, vers une intervention et être un peu tranquille et pas trop avoir d'émotions.
Comment vous faites pour les préparer, pour préparer un patient avant une opération chirurgicale ?
Eh bien, en quelque sorte, il faut qu'il soit dans une telle ambiance de confiance qu'il puisse, bon c'est une image, mais donner son corps à l'infirmière anesthésiste, à l'anesthésiste, au chirurgien, il donne un corps provisoirement, évidemment, à un homme de l'art qui va faire quelque chose pour qu'il aille mieux. Et cette dissociation temporaire, dans un bon contexte bienveillant, réduit beaucoup la douleur et réduit beaucoup l'angoisse, et ça se passe mieux, et moins d'adrénaline, donc le chirurgien est content.
Docteur Benayem, on avait un doute tout à l'heure avec notre invité, le journaliste Thomas Cavaillé-Foll, sur l'accouchement justement. Est-ce que pendant un accouchement, on peut utiliser l'hypnose ?
Oui, on fait surtout avant, on prépare, ça c'est classique, mm-hmm. Il y a plusieurs façons de préparer. Pendant, on peut aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne panique, qu'elle respire bien, qu'elle soit tranquille. En fait, c'est ça c'est le confort. On essaye de. Mais les douleurs sont très fortes dans l'accouchement. Mais si on réduit la composante émotionnelle, alors la personne va dire ouf, si j'avais eu plus hurlé, plus peur, peut-être qu'on aurait fini par une césarienne. Et finalement, je me suis un peu reprise et on a pu faire un accouchement par voie naturelle.
Qu'est-ce qui provoque le passage en état d'hypnose ? Est-ce que c'est votre voix ? Est-ce que ce sont les mots que vous choisissez ?
Il faut, c'est très simple parce que c'est un phénomène naturel. C'est-à-dire qu'il faut une monotonie de quelque chose. Soit on fixe, bon, on fait plus ça, mais soit on fixe la flamme d'une bougie, soit on fixe le siège où on est, soit on fixe la voix monotone, vous avez raison. Et dès que c'est monotone, les sens sont perturbés et on rentre dans une espèce d'état un peu bizarre, de rêverie, d'absence. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, on a besoin de l'autre étape où la personne peut résoudre un problème parce qu'elle a été confuse quelque part, elle peut retrouver une lucidité par ailleurs.
Docteur Benayem, est-ce que vous pourriez nous placer sous hypnose ? Vous êtes par téléphone, là. Est-ce qu'à distance ça marcherait ?
Oui, parce que c'est un phénomène naturel. Donc, dès qu'on suit, il y a des musiques qui nous mettent sous hypnose parce qu'elles nous bercent. Il y a des comptines qui nous mettent sous hypnose parce que on écoute, on se laisse bercer plus par la voix d'ailleurs que par le contenu. Donc, c'est tout à fait simple.
Ça serait dangereux si vous faisiez là maintenant, pourriez, pour les auditeurs. Ah, vous l'essayez carrément ?
Moi, je veux bien essayer. Faut dire aux gens qui sont en voiture, évidemment, d'être vigilants. Quel conseil vous leur donnez à ceux qui sont en voiture ?
Il y a différentes façons d'hypnose. Par exemple, si on écoute la radio quand on est en voiture, on crée une espèce de dissociation. La personne écoute les infos, la radio, l'émission, et elle peut conduire parfaitement. Donc il y a tout à fait une capacité, c'est un type d'hypnose qui est intéressant où la personne finalement se rend très présente et ça l'empêche de trop réfléchir. Elle va mettre son attention sur l'émission qu'elle est en train d'écouter. Là, pour l'exercice qu'on va faire...
Alors allons-y.
Voilà, on peut le faire tout de suite. Et il faut pas fermer les yeux. Alors ne fermons pas les yeux.
Okay,
comme ça, on prend pas de risque. Et ceux qui conduisent, surtout, ne faites pas l'exercice. Voilà, il est très simple. Il faut rentrer en contact avec quelque chose de monotone. Ça peut être le contact du fauteuil, si vous êtes dans un fauteuil. Le contact avec le dos. Ça peut être le sol sous les pieds. Voilà, je vous laisse trouver le contact. Si vous tenez un objet, ça peut être le contact de l'objet. Et c'est là qu'on focalise notre attention. Allez-y, focalisez votre attention sur ce que vous tenez, sur le contact. Et si votre attention s'en va, vous ramenez, bien sûr, sur le contact. Il n'y a que ça qui compte. Le contact, le dos, les pieds, l'objet que vous tenez, la voix, si vous voulez. Voilà. Et tout naturellement, si on ne s'y oppose pas, parce qu'on a le droit de ne pas le faire et s'y opposer, et si on se laisse porter par, alors il y a une espèce de monotonie qui vient, on est tranquille, en plus c'est l'après-midi, donc on ferait bien une mini-sieste, et tout cela mélangé fait que la personne commence à être plus impassible. Vous pouvez même maintenant faire partir les émotions. Comment on fait ? Eh bien, par exemple, vous pouvez vous identifier à une statue. Voilà, vous voyez, un objet qui n'a pas d'émotion, qui est calme, qui est vide. Sur le visage, c'est tout à fait vide. C'est ça la première étape où l'on, en quelque sorte, on met un peu de confusion de façon à lâcher notre rigidité, s'il y en avait. La rigidité, les croyances, les peurs, les habitudes, les rituels, vous voyez, tout ce qui nous rigidifie. Et l'espoir, si nous avons un acte chirurgical à faire, médical, on va s'arrêter à cette étape. Oui. Voilà, la personne est tranquille et on va pouvoir désinfecter une plaie, mettre, poser une perfusion parce qu'elles se sentent tranquilles et il n'y a pas d'émotion. Et si on a un problème à résoudre, arrêter de fumer, modifier le comportement alimentaire, là, il y a plein d'exercices qu'on va ajouter. Une fois que la personne a atteint cet état dans lequel vous êtes, les exercices sont individuels. On va les faire, les créer suivant comment la personne, ce qu'elle nous a raconté de son histoire, de son vécu. Voilà, vous êtes maintenant à l'étape de la statue.
Eh ben, on va s'arrêter là.
On a promis que ce soit court. Oui. On peut revenir doucement.
Oui.
Un et deux, vous allez pouvoir revenir. Et vous pourrez le refaire éventuellement. Bien respirer profond. Et puis ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et puis vous étirer. On a fait une mini-transe de quelques instants.
Merci beaucoup. Merci d'avoir pratiqué un peu d'hypnose en direct sur RTL, Jean-Marc Benayem.
Je rappelle,
oui, ça fait du bien. Je rappelle que vous êtes responsable du diplôme universitaire d'hypnose médicale au CHU de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous avez publié un livre aussi sur le thème de l'hypnose?
Oui, j'ai fait un livre sur, pour éviter les douleurs et les souffrances. Oui. Et ça s'appelle Zen et hypnose. Voilà, qu'on trouve aux éditions La Martinière.
Eh ben voilà. Zen
et
hypnose.
Aussi le guide de l'hypnose chez InPress.
Merci beaucoup.
Y a-t-il des effets indésirables de l'hypnose? On vous les révèle dans un instant sur RTL. On vous dit tout.
Les gens sont curieux, hein. Alors dans la magie aussi, ils sont curieux, ils veulent comprendre comment le magicien arrive à faire cette illusion.
RTL.
Mais là, les gens veulent comprendre comment je réussis à hypnotiser des personnes comme ça, des centaines de personnes à chaque soir, avec un claquement de doigts, par exemple.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Alors, ils sont là, ils viennent assister, ils viennent participer aussi. C'est un spectacle dont vous êtes les héros à la fois. Ils vivent des émotions et ils vivent toutes sortes d'aventures sur scène.
Les curieux sont sur RTL.
L'hypnotiseur Mesmer, qui est un peu la star des spectacles d'hypnose, et nous, dans la curiosité, on se passionne pour l'hypnose médicale, l'hypnose à usage thérapeutique. On est toujours avec le journaliste Thomas Cavaillé-Folle. Est-ce qu'il y a des effets indésirables de l'hypnose, Thomas?
On commence à peine à s'en rendre compte, mais il y en aurait effectivement. Ce serait des maux de tête, de l'anxiété, et parfois même la création de faux souvenirs. C'est assez intéressant. Et donc les chercheurs commencent à peine à vraiment commencer à les répertorier, à les analyser. Pardon.
Pourquoi? Parce que l'hypnose, c'est autre chose que se déconnecter de ses émotions, c'est aussi aller plonger dans le passé?
En fait, c'est devenir très ouvert à la suggestion. Donc du coup, ça dépend de ce que l'hypnothérapeute veut vous faire voir.
On peut se faire manipuler par un gourou, concrètement.
Exactement, c'est ce qu'il y a dans l'hypnose de spectacle. Là, l'hypnotiseur, est très directif. Il ordonne et vous suivez, en fait, ses ordres. Alors que dans l'hypnose médicale, c'est beaucoup plus... C'est ouvert à la conversation. Là, c'est le patient lui-même qui se guide, plus ou moins. On va juste le guider avec des petits mots.
Pourquoi les praticiens, les médecins, les infirmières qui utilisent l'hypnose, encore une fois, en anesthésie, ne voient pas forcément d'un très bon œil les spectacles d'hypnose?
Parce que ça fait sensationnel, justement, ça discrédite du coup un peu la pratique médicale derrière. Et parce que aussi, ça peut être violent, je pense, par rapport au niveau de l'esprit, justement, c'est cette direction.
Or, la pratique médicale, elle est efficace, vous l'avez testé, prouvé pour ce numéro de Science et Vie.
Elle est très efficace.
Il y a aussi des applications pour les téléphones portables, d'auto-hypnose, c'est bidon, ça?
Vu qu'on se rend compte que ça a un réel impact, l'hypnose, là, ça a pété les plombs un peu sur le Internet et toutes les applications. Il y a même un casque d'auto-hypnose.
C'est dangereux de le faire tout seul?
C'est pas conseillé, surtout, en fait, on sait pas si ça marche ou pas. Il y a côté très peu d'études dessus. Ça peut être bien pour se relaxer, mais si vous voulez arrêter de fumer, c'est peut-être pas la meilleure solution. Vaut mieux faire appel à un praticien qui est à la fois thérapeute et hypnothérapeute.
Oui, c'est toujours pareil. Ça dépend de l'usage qu'on en fait. Si c'est se relaxer pour s'endormir, ça peut, pour certaines personnes, ça fonctionne. Et donc, très bien, continuez de l'utiliser. Merci beaucoup, Thomas Cavaillé-Folle.
Merci à vous, à bientôt.
C'est vie sur l'hypnose et la méditation. Il y a aussi ce thème-là qui est passionnant. C'est en kiosque et en partenariat avec RTL.
Vous écoutez RTL.